La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure. Et bonjour.
Salut.
Bien retourné à la brochure. Et bien aujourd'hui, on va à lire un test extrait par une petite revue italienne qu'elle s'appelle I giorni e le notti. Et on commence à vous lire avec le titre que c'est Quel grumo di buio.
Note sur la mobilisation réactionnaire en cours. Si les forces qu'elle met en mouvement sont celles du vieux monde, alors la crise travaille pour le vieux monde.
Angelo Tasca, nascito a vento del fascismo.
Quelque chose de philistin, de corrompu, d'aride, d'hypocritement diplomatique, un abaissement des perspectives utopiques, celles qui ont toujours impulsé le battement d'ailes nécessaire à l'envol au-dessus des sédimentations de l'histoire.
Luca Canali, quel punto di luce. Il y a des termes dans ce texte, sont des termes spécifiques au contexte politique italien. Quand on lira le mot « les jaunes », on fait référence à la couleur du mouvement 5 étoiles. Le vert, par contre, c'est la couleur de la Lega, qui est une autre partie d'extrême droite raciste du scénario italien.
Il me semble particulièrement utile, par les temps qui courent, de revenir à l'analyse historique du fascisme. Tout en évitant les anachronismes, les lectures les plus lucides sur sa naissance et son avènement fournissent des pistes pour comprendre le présent. Mais si de nombreux auteurs ont déjà sondé chaque aspect du mouvement et du régime mussolinien, l'organisation militaire des
fasci di combattimento,
les couvertures d'État, les financements, les rapports avec la
Confindustria,
organisation patronale équivalente au MEDEF, et avec l'Église, la propagande, la mystique, etc. Cette historiographie en a souvent édulcoloré les traits essentiels. En réalité, les analyses les plus utiles du point de vue révolutionnaire demeurent celles qui ont été écrites à chaud, parce qu'elles sont aussi un bilan critique de ce qui s'est déroulé dans le camp prolétaire. L'analyse de la montée du fascisme servait précisément à comprendre les limites, les manques, les compromissions du mouvement socialiste, tant réformiste que maximaliste, afin de préparer la révolte prolétaire, et cela avec une conscience limpide. Les erreurs des partis ouvriers, ou pour être plus précis, l'inconsistance de la révolution, font partie de la définition du fascisme, au même titre que son utilisation par les classes dominantes.
Angelo Tasca. C'est dans ce bout que je suis retourné à l'étude des « Nascita et avvento del fascismo » d'Angelo Tasca. Fascisme et grand capital de Daniel Guérin et la tragédie del proletariato in Italia, diario 14-26, di Zino Zini. Évidemment, on pourrait en ajouter d'autres. Fabri, Salvemini, Gobetti, Borghi, Berneri, Silone, Lussu. Mais dans les textes cités, surtout dans celui de Guérin du 36 et celui de Tasca du 38, je trouve un regard plus global sur une période plus longue. Pas seulement à propos de fasci di combattimento, conscription privée rétribuée, armée encadrée et lancée par la bourgeoisie nouvelle contre les prolétariats, c'est la définition des Zini, mais aussi de la politique industrielle et agricole du régime fasciste. Pour autant, ces textes ne sont pas exempts de jugements discutables, voire franchement faux, par exemple chez Guérin, une supposée ligne réactionnaire entre les réflexions sur la violence de Georges Sorel et le nationalisme de Mussolini, ou pire encore, l'attribution de l'incendie du Reichstag à un complot nazi, alors qu'en France, où Guérin écrit, plusieurs anarchistes avaient déjà défendu la figure et les gestes du communiste des conseils Marinus van der Lubbe. Mais dans l'ensemble, l'analyse, tenant compte de la pénurie des documents de première main, vise juste. Les parties plus suggestives pour notre époque, et il s'agit d'une suggestion inquiétante, sont celles qui traitent de la démagogie et à la mystique avec lesquelles le fascisme, serviteur armé du grand capital, a réussi à mobiliser une grande part des classes moyennes et une moindre part des prolétaires, surtout les jeunes. Les contextes ne sont pas comparables. Nous ne pouvons pas comprendre la défaite prolétaire de l'époque sans considérer l'exacerbation nationaliste, les climats psychologiques de l'immédiat après-guerre ou 1918, les séquelles de la vie dans les tranchées, la peur éprouvée pour la bourgeoisie face à l'occupation des usines, la phraséologie révolutionnaire issue de l'octobre russe qui promet, manipule, dissimule, paralyse, les formules sur la crise inévitable et prochaine du régime, sur l'impossibilité pour la bourgeoisie d'en sortir, quoi qu'elle fasse, agissent comme des stupéfiants. C'est justement un excellent parallèle contemporain avec les mythes apocalyptiques qui portent à l'inaction sur le plan social et laissent à la bourgeoisie le temps de se réorganiser. Ça, c'est une note de ce qu'il a repris cette traite. Et c'est ça, la note finale de Tasca. Mais la rhétorique avec laquelle le parti et les groupes racistes et réactionnaires aiguillonnent et renforcent les pulsions d'une classe moyenne terrorisée par la prolétarisation ne sont pas très différentes. Laissant un instant de côté les équilibres institutionnels, aujourd'hui par exemple les attaques les plus fortes sur les conditions de vie et de travail des millions d'individus sont parfaitement compatibles avec le cadre démocratique, il est important de recueillir les éléments matérialistes et émotionnels d'une certaine psychologie de masse. Peut-être faudra-t-il même relire l'analyse de Wilhelm Reich sur le racisme comme cuirasse caractérielle et comme peste émotionnelle.
Guérin écrivait « Le fascisme, pour ne pas se démasquer, doit polémiquer aussi avec le système capitaliste dans son ensemble. » Mais encore une fois, son anticapitalisme est bien différent de celui du socialisme prolétaire. L'anticapitalisme des classes moyennes est inspiré surtout par l'organisation du crédit. Pendant tout le 19e siècle, les idéologues petits bourgeois n'attaquaient pas tant le capitalisme producteur, mais celui de l'usurier et du banquier oisif. En définissant, en juillet 1919, les
fasci di combattimento
comme l'antiparti des réalisateurs, Mussolini ajoutait « Nous, les fascistes, nous n'avons pas de doctrine préconstruite. Notre doctrine est le fait. » Face à la compression des salaires et des revenus, les sirènes nationalistes hier et souverainistes aujourd'hui entonnent toujours le même chant. Les producteurs deviennent indistinctement les ouvriers et les entrepreneurs, opposés à la même mauvaise finance. Les agents du mal sont extérieurs à la communauté nationale et dans leur viseur finissent par se confondre le spéculateur apatride et l'étranger pauvre, forcé à accepter les pires conditions de travail. Le contestataire qui peut se permettre le luxe de protester et le bureaucrate qui bloque l'action avec ses mille paperasses. Pendant que le petit bourgeois se sent assiégé par les fiches d'impôts et encerclé par les voleurs, il commence à rêver de mise à mort par procuration. Et puis, un jour, quelqu'un arrive et dit « La fête est finie, il n'attendait que ça ». Il se dit que pour le vendeur ambulant du Sénégal, pour les Chinois qui achètent tous les bars de son quartier, pour les squats qui barbouillent les murs, pour Bill Gates, Rockefeller et les plans occultes d'asservissement des peuples, pour les PD et leurs cochonneries, pour les femmes qui ne restent pas à leur place, enfin, la fête est finie. La fête est finie, le bulldozer arrive. » En note, c'est un surnom autoproclamé de Salvini.
Salvini, c'est le ex premier ministre italien et quand même toujours le chef du mouvement qui s'appelle la Lega. Comme toujours, c'est ce qui a ouvert en grand les portes à ce peuple de l'abîme. C'est Jack London qui a utilisé cette phrase. C'est la gauche contre les travailleurs, en menant les pires attaques au contrat de travail collectif, au salaire et aux retraites, contre les classes populaires en préparant les campagnes sur l'insécurité, les dégradations et la bienséance, contre les peuples coloniaux en inaugurant la saison sans fin des guerres humanitaires, contre les contestataires en prêchant les refus de toute forme de violence, sauf celle de l'État et des fascistes. contre les immigrés en adoptant la formule « aidons-le, mais chez eux ». Et voilà. Et enfin, les coupes de maître face au chef de l'État qui explique volontiers à la télévision qu'en démocratie, ce sont les épargnants et les agences de notation qui décident, un discours qui a produit une vague de souverainisme gémissante contre Bruxelles dans tous les bars du pays, l'appel aux armes désespérées pour défendre les présidents de la Constitution. On pouvait difficilement être à la fois plus servile et plus stupide. Résultat, marche arrière du président, marche avant du bulldozer.
Alors que les jaunes, note
5 stèles, les 5 étoiles,
disent à présent, maintenant, l'État c'est nous, quand en réalité, ils ne sont qu'un bout de gouvernement. Les verts, note en bas de passe, couleur de la Liga, eux visent réellement l'État, tribunaux, prisons, préfectures, commissariats. Certains jaunes avaient défendu le mouvement des notaves. C'était avant que l'ordre et la sécurité deviennent les seules marchandises à valeur électorale. L'échec du mouvement notave a joué un rôle dans la montée du fascisme. Retrait du terrain des luttes en Italie, pas seulement en Val Susa, mais aussi aspiration et récupération de la lutte à des fins électorales par les 5 étoiles. La question se pose pour la ZAD avec les nombreuses similitudes internes aux deux mouvements. Qu'a produit la ZAD et quel vide sa fin dessine-t-elle? Mais les notaves, dans la pratique et surtout dans le récit médiatique donné en pâture au peuple de l'abîme, étaient ceux qui jetaient des pierres sur la police. Les syndicats de police, qui n'ont pas oublié, n'ont donc aucune sympathie pour les jaunes, même propres et en costard-cravate. Par contre, ils ont toujours pu compter sur les verts, même quand leurs collègues en tenue anti-émeute massacraient et torturaient, car la légitime défense vaut pour tous, mais pas pour les victimes de la violence de l'État. C'est aussi en promettant de fermer les portes des cellules de prison 21 heures par jour qu'un parti jette les bases de son propre devenir État. À la limite, les grandes phrases contre l'Union européenne ont pu préoccuper un peu les milieux économiques, mais au final, même les serviteurs rémunérés par le capital comprendront que rétablir un principe d'autorité à ce stade leur sera plus utile que de gouverner avec le consensus des confédérations syndicales.
Quand, en l'absence des conflits sociaux, la crise travaille pour le vieux monde, les changements promis par les forces du vieux monde, c'est l'État renforcé. La rhétorique qui plaît tant aux hommes italiens est résumée dans la formule « marre de se mettre à genoux ». Et quelle est pour eux la première puissance à laquelle résister avec fermeté? Le MEDEF, l'OTAN, la Banque mondiale, les multinationales? Non. Le peuple de débarquer, ces faux réfugiés qui fuiront des fausses guerres et qui, grâce à l'esprit astucieux des gens d'État, apparaissent à présent comme des agents de la globalisation, des pions d'un complot élaboré par les mauvais capitalismes oisifs contre les bons capitalismes productifs. Pour ceux qui n'ont qu'une doctrine, celle du fait, peu importe que la rhétorique utilisée soit privée de toute logique, l'important, c'est que ça marche. En son temps déjà, Karl Kraus définissait le nazisme comme « phrase devenue action », le pire discours des comptoirs qui deviennent action gouvernementale. Un exemple éloquent, un quotidien réactionnaire qui assume désormais de répondre à ceux qui critiquent les nouveaux gouvernements par une première page titrée « Allez travailler ». Au lieu de sourire à ces anecdotes avec un air suffisant, comme le font habituellement les intellectuels de gauche, il faudrait se souvenir que les chefs du fascisme historique étaient souvent des journalistes. Le critique viennois, Goebbels, en effet, voyait à l'œuvre dans les capitalismes, en chemise brune, la triple alliance d'encre, des techniques et des mortes. Karl Kraus, la troisième nuit des Walpurgi. La mort, dans les camps d'internement ou en mer, en fouillant une rafle ou sous les balles d'un capot à la solde des propriétaires terriens. La technique, celle des opérations militaires et policières, mais aussi le zèle du fonctionnaire des préfectures dont l'organigramme prévoit une réaction pour chaque geste et pour chaque ordre. Et, au premier rang, et ce n'est pas un hasard, l'encre, la guerre au cerveau. Vivant avec son temps, les ministères de la peur, recrutement d'agents nazis, transforme l'ordre des choses en un simple tweet. La mesure anti-immigrée en hashtag, mot-clé comme hashtag io non mi piego. Moi, je ne me plie pas. Slogan souverainiste utilisé par les sympathisants de la Ligue, comparable un peu à notre « Je suis Charlie ». Et bon, on est arrivé presque à la fin de la première partie. Et j'espère que ce qu'on a lu, il va titiller un peu. Je vous donne une bonne soirée et on se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao!
Ciurma nemica d'una galera infame, su cui ratta la morte, miete per lenta fame. Mai orizzonti limpidi schiude la nostra aurora, e sulla tolda squallida urla l'ascolto ignora. I nostri dì si involano fra fetide carene, siamo magri smunti schiavi stretti in ferro catene. Sorge sul mar la luna, ruotan le stelle in cielo, ma sulle nostre luci stese un funereo velo. Torme di schiavi adusti, chini a gemer sul remo, spezian queste carene, o chini a remar morremo. Cos'è gementi schiavi, questo remar remare, meglio morir tra i flutti, sul biancheggiar del mare. Remiam finché la nave si schianti sui frangenti, alte le rosso nere fra il sibilar dei venti. E sia pietosa coltrice l'onda spumosa e ria, ma sorda un dì sui martiri il sol dell'anarchia. Su schiave allarmi, allarmi, l'onda gorgoglie sale, tuoni baleni e fulmini sul galeon fatale. Su schiave allarmi, allarmi, puniam col braccio forte, giuriam, giuriam giustizia, o libertà o morte. Giuriam, giuriam giustizia, o libertà o morte.